Jean-Maximilien Van Keyzel, bonjour.
Bonjour Didier Testot.
Vous êtes directeur général du groupe Cristal. On va parler avec vous d'un sujet particulier. On va parler de patrimoine, d'investissement, de gestion patrimoniale, et notamment pour les expatriés. C'est vrai qu'on peut connaître ici ou là des expatriés, mais on n'a pas forcément en tête que cette gestion de patrimoine est sans doute particulière pour eux. Vous, c'est vraiment une de vos spécialités. Ça veut dire que les expatriés ont un besoin spécifique vraiment?
Oui, ils ont plusieurs besoins. Nous faisons ça depuis 25 ans maintenant. Mes associés ont créé le groupe en 92 avec une première volonté, c'est d'être proche des expatriés. Donc voilà, quand on s'expatrie, on s'éloigne du territoire français ou on s'éloigne de la métropole parce qu'on peut être expatrié dans des zones étrangères, on peut être aussi résident de départements et de territoires d'outre-mer et déjà avoir une proximité, c'est un premier point, et puis des fiscalités qui changent, des devises aussi. On a des problématiques dans différentes devises, on touche de l'argent dans des devises différentes, donc pouvoir avoir quelqu'un proche de chez soi qui va vous accompagner dans votre gestion de patrimoine, qui va connaître ces problématiques, qui va vivre avec vous ces problématiques, est un point.
Donc, effectivement, ces questions-là, et puis on pourrait dire l'expatrié, il n'a pas forcément en tête quand il parle le temps de son
Voilà.
expatriation.
C'est vrai qu'historiquement, classiquement, l'expatrié, c'était des contrats de 3 ans renouvelables dans des grandes structures françaises où il était pas mal accompagné. Aujourd'hui, l'expatrié, c'est quelqu'un qui va chercher des opérations, qui va chercher des contrats de travail plus intéressants, du dynamisme dans certains pays, des nouveaux entrants, des jeunes diplômés qui vont chercher des possibilités d'emploi, et d'autres, des cadres dirigeants à haute valeur ajoutée qui vont aller chercher des postes intéressants. Donc l'expatrié, voilà, a des besoins, il a une nouvelle fiscalité, et il faut pouvoir l'accompagner à la fois dans sa vie d'expatrié et dans son retour, pouvoir créer un patrimoine qui soit adapté à ces deux modes de vie.
Est-ce que justement, dans un temps qui est relativement court, quand on parle de 3 ans, ce n'est pas le temps d'un investissement,
Non.
on va dire en général, voilà, on compte sur 5 ans et plus, il va quand même pouvoir se constituer un patrimoine, mais il y a des choses peut-être qu'il ne pourra pas faire quand même. Parce que par exemple, si on pense à l'immobilier, s'il faut qu'il revende, ce n'est pas
Voilà.
forcément évident, il y a des choses.
Alors, il est vrai que le contrat de 3 ans, on ne le voit plus. De plus en plus d'expatriés vivent très longtemps à l'expatriation. Une fois qu'ils ont pris le goût, c'est très difficile pour eux de revenir. Des fois, ils reviennent et repartent. Donc, on a du temps. Et dans ce temps-là, on va chercher, voilà, à optimiser des vies dans différents pays, parce qu'on peut être expatrié une fois au Moyen-Orient, après en Asie, après aux États-Unis. Et il faut pouvoir créer un patrimoine qui va s'adapter à ça. Et donc, voilà, si on n'a pas de temps, si on a un contrat de 3 ans, ça va être très court. Lorsqu'on a des expatriés de long terme, ce qui est quand même 60% du marché, voilà, on va créer quelque chose qui soit adapté à leur vie de non-résident et à un retour.
Est-ce qu'il faut justement prévoir d'abord le retour ou quelle est la stratégie justement?
Alors, nous, même des fois, s'ils ne le veulent pas, parce que certains expatriés nous disent, moi, je ne rentrerai jamais. Alors, ils le disent quand ils sont très jeunes, puis au bout d'un moment, ils ont le mal du pays. On va prévoir, on va toujours avoir sous contrainte cette possibilité de retour. C'est là où on amène notre plus-value. Être capable d'adapter son patrimoine à un retour en France, dans cette fiscalité que l'on connaît, que l'on a tendance un peu à croire trop forte en France, mais elle n'est pas si forte que ça, surtout lorsqu'on a été expatrié, on a pu adapter les choses et de pouvoir adapter ce retour, de pouvoir revivre dans un environnement euro aussi, de pouvoir continuer à faire de l'investissement en France. On peut être expatrié et de plus on est expatrié, vous savez, plus on a le mal du pays. Très vite, le conjoint veut avoir un pied-à-terre, veut avoir des opérations en France, veut prévoir les études des enfants. Ça, c'est les premiers besoins, hein, le pied-à-terre, les études des enfants. Et pour les études des enfants, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être créer de l'épargne pour cela. Et donc là, le choix des supports d'investissement, du mode de financement, l'accès au mode de financement en tant qu'expatrié, bien souvent en tant qu'expatrié, les banquiers vont vous regarder différemment. Ils n'ont pas cette visibilité qui sont sur vos comptes, ils n'ont pas cette visibilité qui sont sur vos revenus. Et donc c'est là où nous, on amène notre plus-value et on les accompagne dans cela.
Aujourd'hui, quand vous parlez de fiscalité, il y a quand même des différences, mais finalement, un expatrié peut aussi avoir des charges importantes localement, parfois.
Dans le pays où il va résider, oui, il y a des faux amis. Hein. On a tendance à croire que quand on quitte la France, ça va toujours être mieux au niveau fiscal. Faut surtout oublier ce point de détail, ce point-là, parce qu'en France, on a une façon de générer du revenu via l'activité salariale qui est très chargée en amont, les charges sociales, patronales et personnelles. Et après, on va avoir l'impôt sur le revenu. Et contrairement à ce qu'on pense, l'impôt sur le revenu n'est pas si fort que ça en France. Vous allez dans des zones à faible charge, la plupart, Les charges sociales sont très fortes en France, donc dès que vous quittez la France, vous descendez à 20% de charges, mais vous allez avoir un impôt sur le revenu qui vient compenser cela. Vous avez, tout le monde pense aux États-Unis, tout le monde adore les États-Unis et rêve de vivre aux États-Unis. L'État de New York, par exemple, est un faux ami et vous coûte très cher. Donc des fois, on peut être attiré par un contrat mirifique d'embauche aux États-Unis et se retrouver avec des coûts très importants. Donc il faut bien constituer ça avant, avoir un conseil pour vous guider sur les coûts de la vie, sur comment ça fonctionne, c'est important. Et puis après, pouvoir adapter cela, parce que c'est vrai que par exemple, si on part aux États-Unis, on rentre dans un environnement réglementaire complètement différent. Les États-Unis sont très protectrices, très protecteurs. Et il faut changer totalement de produit. Il faut oublier ce qu'on a appris sur l'assurance vie. Il faut oublier ce qu'on a appris sur la détention immobilière. On peut se retrouver à ne pas payer d'impôts en France et à devoir en payer aux États-Unis sur des actifs en France. Donc, il y a un vrai sujet.
Voilà, c'est pas, oui, il y a le côté Eldorado fiscal qu'on trouve dans le monde.
Vous avez quelques Eldorado, je pense aux Émirats, j'y ai vécu 7 ans, je peux vous confirmer que fiscalement c'est pas mal, ouais. Mais globalement dans tous les pays occidentaux développés, ça coûte cher.